Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit des pourparlers de Kampala. Les délégués du gouvernement congolais et ceux du M23 ont examiné et élaboré mardi dernier 10 points parmi lesquels la libération des prisonniers du CNDP, la transformation du M23 ainsi que le retour et la réinstallation des réfugiés et des déplacés internes. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la radicalisation de la grève des médecins et ses conséquences. Tels sont les thèmes de la tribune de la presse de ce soir. Trois confrères seront avec nous dans cette émission. Il s'agit de Baudouin Saïle Mbalanga. Il est éditeur du journal La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Baudouin Saïle Mbalanga.
Bonsoir, bonsoir confrère.
Nous serons également avec Rossil Martin Bouyamba, journaliste à Télé 7, une télévision du groupe de presse Média 7. Bonsoir Rossil Martin Bouyamba.
Bonsoir Samuel, bon week-end à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Également, nous sommes avec Dona Moussemé, directeur général de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu et secrétaire provincial de l'UNPC Sud-Kivu. Bonsoir Dona Moussemé.
Bonsoir, c'est Dona Moussema.
Dona Moussema.
D'accord, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. La relance des pourparlers de Kampala et la radicalisation de la grève des médecins congolais ont occupé une large place dans les colonnes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Comment ces deux sujets ont été traités par les journaux de Kinshasa? Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
Les pourparlers de Kampala ont fait la une de plusieurs journaux parus cette semaine à Kinshasa. Le potentiel renseigne que le M23 multiplie des exceptions dans le but d'éloigner davantage l'espoir d'un accord pour le retour de la paix. Le journal croit déceler la dernière trouvaille de la rébellion qui est la création d'une zone tampon autour de Rutshuru, territoire passé sous son contrôle depuis plus d'une année. Pour le potentiel, une zone tampon autour de Rutshuru consacrerait un no man's land où les agresseurs de la RDC, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, vont se livrer à cœur joie au pillage des ressources du sol et du sous-sol congolais. De son côté, la prospérité annonce que le facilitateur a rappelé aux deux délégations que ce dialogue qui a débuté le 9 décembre 2012 dure depuis 9 mois. Le quotidien croit savoir que le ministre ougandais a expliqué aux deux parties qu'il devenait crucial d'y mettre rapidement un terme, d'autant plus que les délais accordés par le 7e sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL est presque terminé. Pour sa part, l'avenir estime que le projet d'ordre du jour présenté aux deux parties par la facilitation est vidé de sa substance. À en croire les quotidiens, ce projet d'ordre du jour comporte 10 points dont la libération des prisonniers, la transformation du M23, les retours et la réinstallation des réfugiés et des déplacés internes, la déclaration de la zone sinistrée et les mécanismes de mise en œuvre, suivi et évaluation. À scruter de près, l'ordre du jour tel que proposé par les facilitateurs commente les journaux, il s'avère qu'il est vidé de toute sa substance dans la mesure où plusieurs points avaient déjà été rencontrés par Remo Tshibanda dans sa réplique à la déclaration du M23 le 17 janvier 2013. Au sujet de la radicalisation du mouvement des grèves des médecins, RadioCapi.net rapporte que la grève des médecins se poursuit dans les hôpitaux de Kinshasa avec comme spécificité la concentration des services minimums dans 2 hôpitaux par jour, l'un à l'est de la capitale et l'autre à l'ouest. Selon le secrétaire général de ces syndicats, Dr Manko Ibadjoki, les médecins n'ont pas trouvé un compromis avec le gouvernement. Les deux parties étaient en discussion du 4 au 10 septembre.
Merci Guy Maté. Baudouin Saïle Mbalanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Chopo, un journal qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine, c'est aussi la poursuite des concertations nationales dont les travaux se poursuivent dans les groupes thématiques. Un petit commentaire.
Merci beaucoup, confrère. J'apprends à distance que les amis qui sont venus de l'intérieur du pays avec espoir de toucher par jour 450 dollars sont aujourd'hui aux abois. Ils touchent à peine 50 dollars. Voilà la vie politique. C'est ça la vie politique. Il ne faut pas faire un programme avec quelque chose que vous n'avez pas espoir de gagner. Vous êtes venu à la Réunion, à Kinshasa, au Kinshasa, pour l'argent. Voilà, la réalité est là. Parce qu'au moment où nous sommes en difficulté, vous avez déjà un programme qui avec les 400 dollars par jour fois 20 jours de plus, hein, ça fait 7000 dollars que je vais acheter une voiture Kinshasa et rentrer chez moi à Kisangani. Non. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont pris des costumes à crédit et aujourd'hui ils n'ont pas la possibilité de payer ces crédits-là. Alors je dis ceci, aujourd'hui j'apprends que la vitesse de croisière est déjà atteinte et les travaux se font dans des commissions. Et d'ici demain ou après-demain, il y aura certaines pistes qui seront dégagées dans le show de tout le monde.
Ok, Rossil Martin Bouyamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Télé7, une télévision du groupe de presse Média7. Toujours dans ces concertations nationales, une certaine opinion estime que l'absence des groupes armés est un frein à ces travaux, car les résolutions issues de ces concertations vont souffrir d'application. Un petit commentaire.
D'abord, nous n'avons pas personnellement trouvé utile la reprise des pourparlers de Kampala, étant donné que les concertations nationales avaient déjà été justement ouvertes par le chef de l'État.
Nous reviendrons les pourparlers de Kampala.
Justement, donc j'étais en train de dire que c'était pour dire qu'il fallait absolument que les groupes armés se mettent également autour d'une table pour que devant de leurs frères congolais, s'ils sont également des Congolais, devant la classe politique, opposition majorité, devant la société civile, devant également les familles des victimes, que ces groupes armés continuent justement à créer justement des paniques autour de ces gens-là, autour des groupes thématiques. On devrait parler des choses aussi sensibles pour justement trouver la solution à cette situation de guerre. Dommage.
Dona Moussema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu et secrétaire provincial de l'UNPC au sud de Kivu. Que pouvons-nous retenir de ces concertations nationales puisque vous y faites partie?
D'accord, merci beaucoup. Mais avant tout, je voudrais d'abord récalcer un peu parce que je sens un peu comme une stigmatisation de la part de Baudouin qui s'attaque là tout de suite au délégué des provinces. Je pense que ça, c'est toujours... Je vais terminer, s'il vous plaît.
Baudouin, je vous en prie.
S'il vous plaît, Baudouin. C'est toujours, un peu ça l'esprit quinois. On dit les gens de l'intérieur, ils pensaient qu'ils venaient ici pour avoir de l'argent. Si vous voyez ces concertations, ceux qui sont fortement représentés, ce sont les quinois. Je pense qu'il faut éviter un peu ce genre de stigmatisation. Je ne suis pas donc à ce sujet d'accord avec lui. Je pense que le per diem qui est alloué à ces délégués représentants, c'est 50 dollars par personne, et encore que les journalistes ne sont pas concernés par ce per diem. Donc c'est tout le monde qui a besoin de ce per diem pour l'avancée des travaux. Donc, au stade actuel, pour maintenant répondre à votre question, je pense qu'il y a des avancées. Nous avons pu remarquer que déjà les travaux en groupe sont presque terminés. Il y a notamment au niveau de la première thématique sur la bonne gouvernance où tout est presque déjà terminé, notamment aussi au niveau d'une autre thématique sur les conflits communautaires, lesquels travaux d'ailleurs dans lesquels on a le gouverneur de la province du Sud Kivu, on a beaucoup de délégués de la province du Sud Kivu, ils sont suffisamment en avance et d'ici déjà demain on peut penser déjà remettre quelque chose de consistant au niveau des présidiums. Et d'ailleurs, le secrétariat, le présidium a visité même les travaux en Carrefour hier et je pense que ça évolue très bien jusque-là.
Puisque vous êtes un délégué de la province du Sud Kivu, quelle est l'actualité qui est à la une aujourd'hui du Sud Kivu?
Au Sud Kivu, c'est devenu un peu récurrent le problème de l'insécurité. Depuis un temps, on parle d'un phénomène qu'on appelle Kabanga. Kabanga, c'est en langue locale qui signifie une corde locale. Donc c'est un système à l'aide duquel on ligote les personnes. On a l'impression que quand vous avez cette corde là-bas, vous aurez de l'argent. Vous allez à l'étranger dans les pays voisins, vous vendez la corde et vous avez facilement de l'argent, 500 dollars et tout et tout. Alors, l'insolite, c'est qu'il y a un papa qui voulait déjà vendre sa fille avec ce système à 70 000 dollars. Il a été appréhendé par la police et ça a fait débat et tabac dans les milieux de la société civile au niveau de la province du Sud Kivu. L'autre actualité, étant donné que nous sommes à la frontière avec le Rwanda, le Burundi aussi, il y a trois sujets burundais qu'on a attrapés hier et qui étaient sans pièces d'identité, sans motif et tout et tout. Ils ont été présentés à la police, on ne savait pas, ils sont venus faire quoi à Bukavu et cela, ça suscitait un peu d'inquiétude au niveau de la population de Bukavu. Voilà un peu en gros ce qu'on peut retenir.
Sans transition, nous abordons notre au premier thème de ce soir. Pour parler de Kampala, les travaux sont relancés depuis le début de cette semaine avec l'ouverture mardi dernier de la réunion du comité conjoint du dialogue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. À l'ordre du jour figure l'examen et l'adoption des 10 points à débattre entre les deux parties sur la situation dans l'est de la RDC. Parmi ces points figure la libération des prisonniers et la transformation du M23. Les deux parties étaient représentées côté gouvernement par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, à la tête d'une forte délégation, et pour la partie rebelle du M23, par le chef de sa délégation, René Abondi, et ce, en présence du facilitateur du dialogue, Crispus Kionga. Depuis Kampala, une correspondante de Lievin Winga.
Au cours de cette première rencontre entre le gouvernement congolais et les délégués du M23, après le sommet des chefs d'État de la région du 5 septembre dernier, la question de l'ordre du jour, notamment les 10 points encore en discussion entre les deux parties, ont été examiné et adopté. Il s'agit entre autres de la libération des prisonniers du CNDP, de la transformation du M23, du retour et de la réinstallation de réfugiés des déplacés internes, des biens expropriés par les rebelles, de la réconciliation nationale et de la justice, de la mise en œuvre des conclusions de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 et du mécanisme de mise en œuvre du suivi et évolution. Mais auparavant, le ministre ougandais de la Défense et facilitateur a affiché son optimisme quant à l'aboutissement de ces travaux. Pour Crispus Kionga, en 9 mois des travaux, tout a été débattu et il y a une grande évolution. Il souhaite enfin qu'un délai soit rapidement trouvé entre les deux parties en vue de conclure ces travaux. De Kampala, Lievin Bwinga, Radio Okapi.
Baudouin Saïd Mbalanga, quelle analyse faites-vous de l'évolution de ces travaux de Kampala?
Merci beaucoup, confrère. Avant de répondre à la question, j'ouvre une petite parenthèse pour dire à mon confrère qui est venu de suite, qui vous respecte. Non, c'est important.
Modérateur,
vous êtes là pour nous écouter tous et ayez un corps gros pour écouter les autres. J'ai tout simplement ceci. Mon frère qui est venu de suite, que je le respecte. Parce que moi, j'étais à la conférence nationale souveraine. Je suis venu de Kisangani aux assises à la CNS à 91. Donc, je respecte mes frères qui sont venus, surtout eux. J'apprends que le gouverneur Tshisambo a ramené 11 journalistes, dont 6 femmes et 5 hommes. Voilà! J'apprécie, j'applaudis. Mais ici, justement, apporter l'information à l'opinion pour dire que voilà, en lieu de plat de $450, on donne à nos frères $50. Je ne trouve rien de ridicule. J'ai seulement apporté l'information à la consommation plurielle. Ceci étant dit, en ce qui concerne les longs débats, les discussions qui ont déjà pris 8 mois à Kampala, j'ai aimé, le facilitateur a dit que passons à l'essentiel. On a beaucoup parlé pendant 8 mois pour déboucher sur quel résultat. Au moment où ils sont en train de faire 8 mois là-bas, moi je suis la province orientale. Moi j'aime que ces débats se terminent pour que ma province orientale quitte le stade de tâtonnement pour devenir une province émergente. Nous en avons marre avec des débats qui ne terminaient pas, avec des discussions stériles, tout et tout. Si j'arrivais à poser la question au M23, quel est le mobile qui vous a poussé à prendre les armes pour tuer vos concitoyens? Est-ce que réellement vous êtes des citoyens congolais ou venus d'autres cieux? Est-ce qu'ils seront en mesure de me regarder dans les yeux? Parce que moi je suis de Kisangani, mais j'ai des ramifications au sud qui vous. Au nord qui vous. Vous comprenez? Je suis frère, j'ai des frères et des sœurs à Goma. Et partout ailleurs, lorsque je vois mes frères incapables de faire revenir les enfants à l'école, aujourd'hui nous sommes presque à 1 mois depuis la rentrée scolaire, chez moi à Goma, à Bukavu, il y a des parents qui n'ont pas 1 000 francs pour acheter l'uniforme des enfants, pour acheter les cahiers des enfants, pour payer les Minerval. Alors, au moment où le débat continue, presque une année à Kampala, c'est pour servir la République ou pour servir des intérêts égoïstes?
Mais nous sommes déjà au point de chute.
Au point de chute, j'ai aimé, et j'ai aimé un point ici, on dit, bien exproprié par les rebelles. Est-ce que ces biens-là sont encore à disposition des rebelles? Les rebelles ont été à Goma, ils ont pillé Goma, ils ont apporté des véhicules, ils ont pris l'argent en banque. Est-ce que tous ces biens-là volés par ces gens-là, on peut encore les récupérer aujourd'hui? Je ne crois pas. Je mets tout simplement que cette fois-ci, qu'on prenne seulement la dernière ligne droite, qu'on remette cette histoire en ordre pour que la guerre prenne fin dans ce pays, papa.
Mais puisque vous abordez le point, parmi les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, on parle également de la libération des prisonniers CNDP.
Mon cher frère, un citoyen de la République qui respecte les institutions ne peut pas prendre les armes. Si vous êtes lésé, il y a des voies à suivre. Mais vous prenez les armes
pour imposer la République à libérer X, Y. Mais il y a des voies, des recours appropriés. Pourquoi prendre les armes? Moi, Saïd Mbalanga, je ne veux pas prendre les armes pour tuer mes concitoyens. À ce moment-là, il y a la justice de Dieu qui prime surtout.
Rossile Martin Bouyamba, l'objet des discussions dans ces concertations est bien connu. Il s'agit entre autres de la libération des prisonniers et la transformation du M23. Mais on parle de la transformation du M23 sans préciser en quoi est-ce que ce mouvement pourrait se transformer. N'est-ce pas un piège?
Tout à fait. C'est un piège. Voilà comment l'histoire se répète encore. Rappelez-vous de cette aventure avec le RCD, qui s'était finalement mué en parti politique. Rappelez-vous de cette histoire, de cette aventure avec le CNDP, mué finalement en parti politique. Mais aujourd'hui, on parle du M23. Sa transformation. Pour que ce M23 devienne quoi? Parti politique? Pour que qui il puisse y faire partir? Des Congolais? Est-ce que nous sommes de Bantous? Nous les serons. Je vous pose une question. Je pose également aux auditeurs qui nous suivent de partout. Papa a décidé que nous puissions plus regarder la télévision. Plus question de la télé parce que je constate qu'il y a beaucoup de dérapages, de dysfonctionnements au sein de la maison. C'est le chef de la famille. Et moi, en tant qu'enfant dans la maison, je peux me dire, bon, quand papa a pris la décision pour que nous puissions rentrer dans nos droits pendant cette période de vacances ou pendant la période de vacances, il faudrait faire quoi? Il faudrait casser son verre, il faudrait casser, je sais pas moi, renverser la marmite de maman. Non! Si je suis enfant de cette maison, je dois obtempérer. Tous les préalables donnés par les M23, libération des prisonniers, quels prisonniers, ceci, cela, ça c'est pour distraire la population. Ce n'est pas au M23 de demander au pouvoir public de libérer M23 en qualité de quoi? Est-ce que le M23 fait-il partie de la société civile, de la majorité présidentielle ou de l'opposition? En quelle qualité? Cette histoire a commencé depuis l'AFDEL. Libérer les Congolais, et juste après, il y a eu cacophonie, etc. L'histoire continue à se répéter. Il faut mettre fin à ça. D'où nous invitons les pouvoirs publics, l'autorité de Kinshasa, de prouver qu'effectivement, c'est une autorité. Pourquoi tous les jours, on doit toujours dire, comme on dit à Lingala, l'État a l'action Makamboboy, l'État a l'action Makamboy. Et si je suis effectivement...
Mais puisque c'est l'État qui gère le pays.
Justement, raison pour laquelle nous demandons la contribution de l'État, pour que l'État congolais prouve à suffisance que c'est un État congolais. C'est ridicule, hein, que chaque fois qu'il y a un problème dans la parcelle, qu'on dise papa, papa, Minerval, on dit papa, rentrée scolaire, papa, on ne mange pas assez, papa, maintenant la fin de l'année, papa, et papa, finalement quand on te dit ça, tu ne peux pas changer, tu peux prendre tes responsabilités en main. Voilà pourquoi on continue à dire que la République démocratique du Congo est un État faible, pendant que nous savons que, même les musiciens ont dit, bien qu'ils l'ont mal dit, et RDC Lokamakasi, RDC est à Mboka Yamakasi. C'est Dieu qui a béni ce pays et les autorités de ce pays doivent prouver à suffisance que c'est un État béni par Dieu et l'autorité établie en place doit également être celui, nous estimons, celui venu de Dieu, d'où celui qui a les potentiels divins.
Oui, Dona Moussema, on parle de la transformation du M23, mais on se demande aussi que deviendront les responsables de ce M23 une fois que ce mouvement serait transformé. Puisque c'est eux qui reçoivent de l'argent, qui reçoivent des armes venant de passer par là pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils deviendront maintenant dans ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir bientôt?
Bon, je ne sais pas si ça sera réaliste parce que jusque-là, on est au niveau donc des propositions. Je ne veux pas me contredire. Chaque fois quand j'interviens sur Radio Capi, j'ai toujours proposé que le problème doit être analysé au niveau, à tous les niveaux, donc en amont et en aval. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas agi sur les différents acteurs de ce conflit au niveau régional, je pense que tout ce qu'on va dire, M23 et toutes les rébellions qui circulent dans la sous-région, ça n'aura pas de solution. L'autre fois, j'avais proposé qu'on puisse, par exemple, agir sur les différents acteurs, par exemple le président Joseph Kabila. Est-ce qu'il est sincère avec son homologue le président rwandais Paul Kagame? Est-ce qu'il est sincère avec le président ougandais Museveni? Autant de questions qu'il faut se poser. L'autre fois, il y a la proposition de Kiwete, le président tanzanien, qui avait par exemple dit qu'il fallait agir sur les différentes rébellions de chaque pays. qu'est-ce qu'on a fait de cette proposition. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on isole le problème du M23 pour en faire un bouc émissaire par rapport à la restauration de la paix dans la sous-région, ce serait très très difficile. Je pense qu'il est plutôt question ici, on est en train de distraire un peu, on crée le dilatoire pour que ça puisse tirer à longueur et qu'on justifie un peu l'insécurité dans la sous-région. Donc voilà.
Baudouin Saïd Mbalanga, l'autre question, c'est le retour et la réinstallation des réfugiés et des déplacés internes. Comment cette question peut être gérée par le pouvoir en place, car une certaine opinion considère cette question comme étant très complexe, surtout si elle n'est pas bien gérée.
Cher confrère, excusez-moi, il s'agit de quels réfugiés internes? Les réfugiés rwandais ou tous qui sont chez nous depuis 1994? Si tel est le cas, je dis que c'est un problème qui concerne a priori les Rwandais. Les Rwandais, c'est un État indépendant. Les Rwandais est constitué par...
Mais il n'y a pas seulement les réfugiés, il y a les réfugiés et les déplacés internes.
Bon, c'est-à-dire que des gens qui ne vivent plus chez eux, comme par le passé, à ce que je sache, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, si tel est le cas, commençons par les Rwandais. Les Rwandais a versé chez nous toute une armée à l'époque de président Habyarimana, à l'époque du maréchal du Zaïre. Il y a des gens ont fui leur pays, les Rwandais, les Hutus, militaires, civils, ils ont emporté et les camions, voire la banque centrale de Rwanda, à l'époque en 94. Ça fait aujourd'hui, au bas mot, d'ici là, l'année prochaine, ça sera 20 ans. Ces gens sont chez nous, ils ont amené des femmes et d'enfants qui ont grandi. Ils sont là dans le Grand Kivu. Mais comment les rapatrier? C'est tout un mécanisme compliqué. Vous comprenez? Parce qu'ils doivent rentrer chez eux au moment où le pouvoir qui est là ne les accepte pas. C'est pour cela que je rejoins mon frère de ce Kivu.
Dona Moussema.
Dona qui a fait allusion à la proposition du président tanzanien, demandant à chaque pays de négocier avec sa rébellion. Mais le président du Rwanda doit prendre le courage politique pour discuter avec sa rébellion. Pourquoi les Hutus sont chez nous? Ils sont chez nous parce qu'ils sont le mal-aimé au Rwanda. Alors que le Rwanda, c'est un pays qui est composé des Hutus. Il faut parler à quelle langue pour qu'on comprenne. Mais... Au Rwanda, il y a les Hutus, j'arrive, il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a les Twa. Il faudrait que le président de la République du Rwanda soit homme d'État. Il appelle tous ses frères. Il faut aussi des consultations là-bas chez eux. Hein.
Juste pour vous compléter, Baudouin,
oui?
Cette demande est faite de part et d'autre, puisque au Rwanda et au Burundi, il y a aussi des réfugiés congolais qui sont là-bas et à qui on demande de rentrer aussi dans leur pays. Donc,
mon cher frère, c'est nous qui empathisons, la RDC empathie davantage. Il n'y a pas la guerre au Rwanda, il n'y a pas la guerre en Ouganda, à ce que je sache, où l'on tue les gens tous les jours. Mais chez nous, nous empathisons davantage. Chez nous, il y a les déplacés. Nous voyons ça. Nous voyons les gens fuir et retour. Est-ce qu'il y a les gens qui regardent la télévision? Nous voyons les gens, les vieilles mamans fatiguées, affamées, malades. Il y a des femmes qui transportent les bébés sur le dos, avec des sacs sur la tête. Pitié, pitié, Seigneur. Alors, nous disons ceci, que le Rwanda reprenne ses fonctions d'antan. Que tous les Rwandais se mettent autour. Il faudrait aussi que la communauté internationale impose la loi, la démocratie doit se voir au Rwanda, où les Rwandais doivent être ensemble, les Hutus, les Tutsis, les Twas se regarder en face pour les dire la vérité, pour dire que mon frère, nous appartenons tous au Rwanda. Pourquoi nous en traitions? Pourquoi vous ne voulez pas? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les Tutsis qui ont le pouvoir, et demain, et après-demain. Non, je voudrais que la communauté internationale puisse aussi imposer la loi au Rwanda. Vous comprenez, on n'est pas éternel dans ce monde. Hein?
En conclusion, Baudouin Saïd Mbalanga, puisque vous avez encore la parole, quelles sont les chances que vous accordez à ces pourparlers de Kampala?
Moi, je suis citoyen de la République. J'appartiens au Congo démocratique. Je suis de la province orientale, de père et de mère. Je ne veux pas la guerre. La guerre nous remane encore en 1960. À l'époque, je me souviens, mon papa avait une voiture Ford qui quittait, s'il vous plaît, qui s'engagne jusqu'à Leopoldville, par route. Aujourd'hui, le gouvernement, ses poumons ne pourraient mettre les points. Nous voulons que les pourparlers mettent des points sur les i pour que la guerre s'arrête au moment où nous parlons à tout moment, pour que la République n'est pas tout simplement pour les Congolais, hein. Tout le monde est le bienvenu, mais en respectant les normes. Ne venez pas balkaniser la République pour imposer que nous prenons la partie autour. Non. Entrez, venez travailler. Mais moi, ouais, je vais continuer. À l'époque, mon frère, il y avait des Rwandais professeurs à l'université à Kisangani. Il y avait des Rwandais qui travaillaient à la Parlement. Est-ce qu'ils étaient dérangés? Alors pourquoi aujourd'hui on va imposer la loi?
Merci.
Non, pas comme ça.
Oui, Rossil Martin Bouyamba, Quelles sont les chances que vous accordez à ces pourparlers de Kampala?
Aucune chance. Aucune chance.
Pourquoi?
Mon aîné et frère Baudouin disait tantôt, ça va déboucher à quoi? Ça va déboucher justement à tous les préalables, voilà, transformation M23, leur intégration dans les forces armées. Ils veulent sans doute aussi que ils occupent aujourd'hui des postes au sein des institutions de la République. Ça débouchera à rien. Pourquoi? Parce que nous avons souhaité, quand c'est pour parler était interrompu, à ce que ces gens qui sont là-bas à Kampala viennent ici aux concertations nationales. Parce que là, il n'y a que deux partis. Il y a côté gouvernemental et côté M23. Mais ici, il y a plusieurs partis. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a la société civile, bien que plurielle. Mais il peut aussi avoir du côté groupes armés. Et toutes ces quatre parties autour d'une table, ça fera quelque chose de bien. On écoutera tout le monde et on répondra, pourquoi pas, aux desiderata des uns et des autres. Maintenant que le M23 se sent toujours gros, imbu, en face du gouvernement congolais, que lui qualifie de faible, il continue à imposer. Comme ça, ce fut le temps du CNDP, ce fut le temps de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, mieux en parti politique. Nous voudrons, vaut mieux tard que jamais, que c'est pour parler de Kampala. S'il faut que ça s'arrête en queue de poisson, que ça s'arrête en queue de poisson. Je suis content que le chef d'État, bien que j'ignore les raisons pour lesquelles il a demandé à ce que la délégation qui est là-bas avec le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Tungamulongo, de revenir à Kinshasa. Nous allons connaître les vraies raisons, mais c'est bon. Si c'est pour parler, peuvent s'arrêter à mi-chemin, tant mieux. L'essentiel,
mais
c'est les concertations nationales.
Ne sera pas résolu si ça s'arrête
les problèmes de M23, vous voulez que les problèmes de M23, quel problème de M23 puisse être résolu? Mon confrère aîné disait tantôt, les réfugiés doivent regagner, je sais pas moi, le Rwanda. Mais vous voulez que aujourd'hui le Congo puisse être taxé de la personne qui n'a pas assisté, celle qui est en danger. Les Hutus rwandais, n'est-ce pas qu'ils sont en danger, là-bas au Rwanda, d'où nous les avons accueillis ici pour les sécuriser. C'est ça, justement, pour éviter la non-assistance d'une personne en danger. Nous sommes en train de les sécuriser parce que nous savons le sort qui leur est réservé dès qu'ils foulent leur propre sol à Kigali. Nous savons le sort.
Dona Moussema, les chances que vous accordez à ces pourparlers de Kampala?
Personnellement, je suis sceptique parce que hier, déjà, j'ai suivi le ministre de l'Information, Lambert Mende, qui a parlé de l'écoute au lieu des pourparlers et des concertations, enfin, du dialogue. Il a dit que on ne leur avait jamais demandé de créer le dialogue ou de négocier avec les M23, mais plutôt ils sont partis à Kampala pour écouter. Je pense que ça dit tout.
Écouter pour déboucher à quoi?
C'est justement ça la problématique. Donc je suis pessimiste quant à ce. Et aussi j'avais dit tantôt que il faudrait insérer le problème du M23 dans une politique sous-régionale. Donc j'avais posé l'autre fois la question, qui arme le M23? Qui soutient le M23? Donc on ne peut pas aujourd'hui isoler le problème du M23 gouvernement congolais, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs hétérogènes qui interagissent. Et même au niveau de la communauté internationale, je l'avais dit l'autre fois. Donc, si nous attaquons le problème par les conséquences, au lieu d'attaquer les problèmes par les causes, je pense qu'on n'aura pas de solution pour le retour de la paix dans la sous-région. Donc, je suis personnellement pessimiste, d'autant plus que le problème du M23 n'a pas été inséré dans cette dynamique sous-régionale qui engloberait tous les différents acteurs au niveau donc de la sous-région, au niveau même international.
Sans transition, nous passons à notre deuxième sujet pour l'émission de ce soir. Le secrétaire général du syndicat national des médecins de la RDC Sinamed, Dr Mankoy Badjoki, a annoncé mardi 17 septembre dernier la radicalisation de la grève des médecins affiliés au Sinamed, grève débutée depuis le 2 septembre dernier. Le Sinamed a décidé la suppression des services minimums dans presque tous les hôpitaux publics. Ces médecins revendiquent notamment les augmentations salariales, la promotion en grade, la mécanisation et recrutement des médecins du service public qui, depuis 20 ans, ne sont pas promus en grade. Plus de précisions avec vous, Bibi Mokonkole.
Pour le secrétaire général du syndicat national des médecins de la RDC, Sinamed, Dr Mankoy Badjoki, cette situation de radicalisation de ce mouvement de grève des médecins affilié au Sinamed est consécutive au silence du gouvernement face aux revendications des médecins. Ils ont par cet acte décidé la suppression des services minimums dans presque tous les hôpitaux publics de Kinshasa, sauf les cliniques kinoises et l'hôpital de Kinkolé. Le Sinamed regrette que le gouvernement continue de faire passer du temps alors que les médecins réclament depuis avril dernier des augmentations salariales comme les professeurs d'université les ont obtenues. Les médecins réunis au sein du Sinamed réclament également leur promotion en grade, la mécanisation et recrutement des médecins du service public qui depuis 20 ans ne sont pas promus en grade. Le docteur Mankoy Badjoki s'étonne que le gouvernement ne dise plus rien à ce sujet alors que la première partie des négociations entre la délégation des médecins et les experts du gouvernement s'était bien déroulée du 4 au 10 septembre dernier.
Baudouin Saïd Mbalanga, quelle analyse vous faites de la radicalisation de la grève des médecins affiliés au Sinamed dans les hôpitaux publics congolais?
Je respecte les médecins, c'est une fonction noble. Je crois que radicaliser, c'est vraiment l'extrême. Je demanderai à mes frères médecins, ils ont droit à la démocratie, de réclamer leurs droits. Hein, je lis ici... On parle d'augmentation de salaire, on parle de la promotion, mais radicaliser la grève, c'est punir mille fois les démunis. Nous ne sommes pas encore dans un pays développé, hein, parce qu'en Europe, j'apprends qu'il y a des cliniques, il y a des hôpitaux spécialisés. Quand vous êtes accepté là-bas, on vous donne à manger. Au lieu de donner des médicaments, on vous donne à manger. Vous souffrez de quoi? Oh, je souffre de maux de tête, de l'estomac, des maux de dos, tout ça. On vous prescrit, en lieu et place des médicaments, on vous prescrit l'aliment. Comment vous allez manger le matin, à midi et soir? Vous comprenez? Mais chez nous, c'est la quinine, c'est la piqûre à gauche, à droite. Alors je dis ceci, les médecins ont droit de réclamer leurs droits, les enseignants également, même les journalistes ont droit, parce que dans d'autres cieux, les journalistes, l'État octroie un budget pour le fonctionnement de la presse. Nous avons sur les droits, même les militaires, même la police, etc. Vous comprenez? Mais en cette période où le gouvernement est entré, j'ai écrit dernièrement ici un article qui vous permettait de lire ne fût-ce que le titre.
Je vous en prie.
J'ai écrit Primature. Matata Mpogno Mampo signé grand coup politique. 30 000 fictifs signalés sur les listes de paye des fonctionnaires de la République. Vous comprenez un peu ça? 30 000 fictifs. C'est-à-dire que des gens qui touchaient l'argent de l'État bénévolement alors qu'ils ne sont pas argent de l'État. Lorsqu'on prend au bas mot 30 000 fictifs, c'est-à-dire que des gens qui n'existent pas. 30 000 fictifs au bas mot fois 50 dollars. Vous voyez des millions hein, qui échappaient au contrôle de la République depuis bientôt 50 ans. Alors, le Premier ministre vient pour essayer de remettre la pendule à l'heure. Il remet la pendule à l'heure, il y a l'urgence de la guerre à côté. Comment remédier la situation? Alors, je dis tout simplement aux médecins, chers médecins, vous avez droit, mais n'oubliez pas que Kinshasa a 10 millions d'habitants. Parmi les 10 millions d'habitants, le pouvoir d'achat, parce que le journal, un journal coûte à Kinshasa 2000 francs. Je n'ai pas encore vu quelqu'un sortir 2000 francs devant les kiosques de journaux pour acheter un journal pour la lecture.
Mais comment vous fonctionnez alors?
La politique d'une entreprise de presse à une autre est différente. Nous fonctionnons parce que nous aimons d'abord notre métier. Franchement, nous aimons notre métier et s'il arrivait que un organe de presse attrape la publicité, un organe de presse attrape les abonnements quelque part, nous débrouillons, mon frère ami, nous débrouillons pour être en équilibre. On se débrouille. Ici, les médecins ont droit à un salaire décent, c'est vrai. Les médecins, comme les enseignants également à l'université, même l'enseignant à l'école primaire. Dernièrement, ici, j'ai vu un documentaire, on vient d'inaugurer une école primaire à Bulungu, où les élèves sont pieds nus. On a réhabilité l'école, on a mis des bancs, mais les élèves n'ont pas d'uniforme. Donc c'est tout un problème, ce sont des dossiers compliqués, des dossiers, mais je crois que la primature nous suit. Notre message est capté par la primature et qu'ils reprennent les négociations, mais on ne peut pas arrêter, mon frère. Mais si on arrête,
on arrête à soigner les patients, ça sera l'hécatombe.
Oui, Rossi, le Martin Bouyamba, les revendications des médecins sont d'ordre administratif et financier. Sur le plan administratif, ils revendiquent la promotion en grade, la problématique de fin de carrière, ainsi que la problématique de sécurité des médecins. Et sur le plan financier, les médecins réclament l'augmentation des salaires. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on devrait en arriver là pour s'attendre à des solutions durables aux problèmes posés par les médecins?
J'aimerais dire ceci. Je crois que toute l'information autour de mouvements de grève des médecins sont relayés au niveau de la presse. C'est soit les professionnels de la plume, les professionnels du micro, etc. Ils ont leur famille. Nous sommes journalistes aujourd'hui. Nous parlons de la radicalisation du mouvement de grève des médecins. Mais demain, même si on ne le souhaite pas, on peut tomber malade. Je peux faire hospitaliser mon enfant, mon épouse, un parent, etc. Je vais l'amener où? Les mêmes médecins, quand il faut lancer leur cri d'alarme, ils viennent auprès des médias. Ils nous appellent, moyennant un transport ou pas, ça dépend. Nous continuons à fonctionner normalement. Mais maintenant, quand nous tombons malades, nous faisons partie de la population. Nous faisons partie de la société civile. Que eux aujourd'hui vont sacrifier à cause. J'ai beaucoup de respect pour les médecins. J'ai dit à cause de leurs intérêts personnels. Augmentation des salaires, reconnaissance de grade, etc.
Mais on dit que ventre affamé n'a point d'oreille.
Je veux bien. Mais rappelons-nous quand même du serment d'Hippocrate que eux ont
Hippocrate.
Fait. Hippocrate, pardon. Bon, je voulais dire Hippocrate parce que ils se comportent en hypocrite, justement. Ils ont presté le serment d'Hippocrate, mais la réalité sur le terrain, c'est justement le volte-face. C'est ça, raison pour laquelle j'ai rebaptisé serment d'Hippocrate. Les médecins ont juré d'abord de sauver la vie. Ce que nous voyons dans différentes formations hospitalières, c'est pratiquement le contraire. Quand vous venez dans un hôpital, dans une clinique, c'est d'abord l'argent. Même dans les centres hospitaliers, les centres de formations hospitalières des publics, c'est d'abord l'argent ou rien. On ne tient plus à la vie humaine, tout simplement parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. J'ai également de la famille, mais vous avez choisi de faire un métier de sacrifice, le médecin, autant que le journalisme. Est-ce qu'ils ont déjà suivi dans les médias un groupe de journalistes dans la rue disant qu'aujourd'hui c'est une journée sans info? À Radio Capi, vous l'avez jamais fait. Je ne crois pas qu'à Télé 7 on le fera demain, ni à La Chopo, moins encore à Radio Iouba. Pas du tout. Mais comment nous vivons? Est-ce le gouvernement congolais qui me suit présentement a-t-il déjà monté des stratégies pour mettre à l'aise le journaliste congolais? Ça dépend d'une maison à une autre. Il y a des organes de presse. Il y a également des entreprises de presse. Moi, je l'intitule ainsi. Dans un organe de presse.
Mais c'est parce que vous n'avez jamais revendiqué.
Nous parlons moins de moins en moins de nous. Nous parlons des autres. Nous parlons des médecins maintenant. Mais quand je tombe malade demain, c'est quel médecin qui pourrait prendre le risque de me toucher pendant que le mouvement est déjà radicalisé? Il n'y a même pas de service minimum. Restons humains de toute façon. Ils ont le plein droit de revendiquer l'ordre. Mais du côté aussi gouvernement, j'étais en train de le dire aujourd'hui, tantôt. Si chaque fois on dit l'État est sur le Cambo, l'État est sur le Cambo, finalement l'État, il faut caper Sony. C'est pour dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement, nous avons dans ce pays un Premier ministre. C'est vrai que le Premier ministre n'a pas que le dossier des médecins. C'est vrai que le Premier ministre, je veux dire, le gouvernement n'a pas que le problème des enseignants, ni moins encore des médecins. Et le gouvernement s'occupe de toute la nation. Mais pourquoi alors on parle de gouvernement? Le gouvernement a des ministères. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main pour justement s'occuper de la population jusqu'au bout. Sinon, mais autant mieux ne pas avoir un gouvernement et que nous puissions vivre comme si nous étions dans une pétaudière.
Oui, Dona Moussema, comment ce mouvement de grève des médecins est vécu en province d'abord?
En province du Sud Kivu?
Oui, en province du Sud Kivu, par exemple.
Bon, de temps en temps, ils grèvent aussi par moment, ils revendiquent presque les mêmes choses. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un mouvement de grève en province du Sud Kivu. C'est une information que je n'ai pas pu vérifier. Je ne sais pas vraiment avancer des choses non vérifiées ici à Radio Cap, mais plutôt...
Le mouvement se radicalise sur toute l'étendue du pays déjà.
D'accord, mais je voudrais plus revenir à ce qui se passe ici à Kinshasa. Mais je pense que le droit à la grève est constitutionnel. Et on ne peut pas gréver si on est content. Vous avez tantôt dit qu'il faut donner la vie. On ne peut pas donner la vie si soi-même on n'a pas la vie. Je pense que les revendications formulées, les raisons avancées par les médecins, je les ai suivies. Elles sont d'ordre financier, administratif, c'est des raisons globalement qui sont fondées. Et ce qui me tique, parce que nous avons en face de nous un cas de conflit, le gouvernement a gardé silence. On n'arrive pas à une grève radicalisée comme ça si on n'a pas d'abord entamé des pourparlers. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait des revendications de toutes les démarches tentant à trouver solution au problème des médecins? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Mais nous remarquons que le gouvernement a plutôt gardé silence et c'est ce qui est déplorable. Mais ce que nous pouvons proposer, c'est qu'il y ait, je dirais, une rencontre encore une fois, que le gouvernement soit sensible à ce problème des médecins et qu'on trouve une solution pour que on ne puisse pas enregistrer déjà des vies humaines qui puissent nous quitter et ça serait déplorable.
Rossil Martin Bouyamba, puisque vous demandez la parole.
J'ai comme l'impression que souvent le gouvernement congolais, les gouvernements qui nous ont dirigés depuis une époque, ne veulent pas tenir compte des priorités. La priorité ici, c'est les médecins. Mais j'étais très surpris hier quand j'ai vu le Premier ministre recevoir, je ne suis pas contre ça de toute façon, recevoir tous les balayeurs, je ne sais pas moi, de la ville, de la cité, de moins en moins il y en a encore. Il le reçoit, pourquoi? C'est pour les encourager. Ben, bravo, c'est une bonne chose. Est-ce que c'était une priorité? Les médecins vous demandent de vous rencontrer, de rencontrer le gouvernement pour ramener les discussions sur la table, sur leurs droits. Vous passez votre temps à les recevoir. Mais vous savez que quand on rencontre Dieu, on rentre pas non plus bréduit. Le Premier ministre, c'est un petit Dieu, parce qu'il a le pouvoir. Quand il avait reçu ces balayeurs-là, que je respecte également, les balayeurs, dont je salue également la bravoure, le sacrifice, pour justement rendre la ville propre et toute l'étendue du pays. Mais quand il les a reçus, vous croyez qu'ils sont rentrés bréduits? Je pense, je ne confirme rien, mais je pense que quand on rencontre Dieu, on ne rentre pas bréduit.
Oui, puisque vous avez la parole, qu'il faut-il faire alors pour remédier à cette situation qui handicape un peu le social des Congolais?
C'est un problème de volonté politique. Je l'ai dit tantôt, recevoir les balayeurs, on pouvait les recevoir même à la fin de l'année pour leur donner leur gratification, mais l'urgence ici, c'était de recevoir les médecins. Il faut les recevoir. Ce sont eux qui ont la vie, la santé de la population. Vous voulez pas les recevoir? Nous continuons à... C'était un service minimum hier. Aujourd'hui, c'est il y a même pas de service minimum. Et vous croyez diriger les animaux ou les concitoyens? Le Premier ministre, les membres du gouvernement, les concertateurs, je les cite, et les autres. Je crois que quand ils ont des moyens, c'est pour vivre mieux. Ils sont en train de se bousculer au palais du peuple, vous le savez, pour avoir les perdièmes. C'était 50 dollars qu'ils sont en train de rejeter.
Merci.
En lieu et place de 5, je veux terminer, de 450, c'est pour la vie. Mais la population aujourd'hui, aller à Mamayemo, aller dans différents centres de formation hospitalière pour voir comment nos Congolais, nos concitoyens sont en train de mourir à cause justement de la négligence du gouvernement.
Oui, Baudouin Saïd Mbalanga, que faut-il faire pour apporter une solution à cette crise qui se vit maintenant à Kinshasa, même à travers le pays, bien sûr?
Je crois que le Premier ministre Matata Ponyo a du pain sur la planche. Il est arrivé au pouvoir, tout est prioritaire. Il regarde à gauche, ce sont les routes, à droite, ce sont les ponts, et il y a même la compagnie nationale d'aviation n'existe pas.
Mais c'est une question de la priorité. C'est quoi la priorité?
Je suis en train de conclure déjà. Je dis ceci. Je crois que le Premier ministre n'est pas sourd. Mm-hmm. Je crois qu'il a déjà reçu les mémos des médecins. Je crois que d'ici là, comme chaque lundi, il y a la réunion de Troïka, ils feront en sorte que les dossiers des médecins, des enseignants, des journalistes soient mis sur la table pour que, à la fin du mois de septembre ici, qu'on lance un ouf de soulagement.
Merci Baudouin, je considère cela comme étant votre conclusion. Baudouin Moussema, en une minute, une conclusion.
D'accord.
Dona Moussema, bien sûr.
Le gouvernement congolais doit aller vers les médecins, les écouter. Les médecins aussi, s'ils ne sont pas écoutés, ils doivent continuer avec le mouvement de grève, ça s'appelle pression, et c'est un signal l'effort qu'il faut donner, parce que dans ces pays, si vous ne faites pas de pression généralement, vous n'êtes pas écouté. Je pense que ce sont là les pistes des solutions.
Aussi, le Martin Bouyamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Télé7, une télévision du groupe de presse Média7. Conclusion.
En une minute, je peux conclure pour dire que le gouvernement congolais ne puisse pas nous donner l'impression d'être submergé, débordé par les sujets. Comme disait tantôt mon confrère aîné, il a les routes, il a les médecins, il a les enseignants. Non, le gouvernement congolais doit créer un miracle pour que la population congolaise vive mieux et mieux qu'il y a deux ans.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission qui a été présentée par Samuel Kachak, Guimand Zangote de la partie technique. Guimaté était à la réalisation de cette émission sous la supervision de Martin Sebujangou. La rediffusion de l'émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.